Et comme chaque semaine, il est temps de retrouver Marion pour une nouvelle chronique culture par chez nous. Marion, bonjour.
Salut Rodolphe.
Chaque mercredi de l'été, Haute-Corrèze Communauté et Radio Vassivière vous font découvrir des trésors de notre territoire, des sites, des événements, des initiatives culturelles ou encore des associations qui font vibrer la Haute-Corrèze et que nous souhaitons partager avec vous. Pour cette nouvelle chronique culture par chez nous, Marion, c'est une histoire étonnante que tu nous fais découvrir, celle des 16 500 soldats russes à la Courtine en 1917.
Et oui, Rodolphe, aujourd'hui nous sommes Première Guerre mondiale et Révolution russe. Nous sommes emplis d'idéaux et de révoltes, nous sommes retranchés au camp militaire de la Courtine, mais avec le cœur qui bat pour la Russie.
« 16 septembre 1917. 10 heures sonnaient au clocher de la petite église de la Courtine quand explosaient les premiers obus de 75, tirés sur les mutins, retranchés, encerclés dans le camp militaire de la Courtine. Ils répondirent par la marche funèbre de Chopin et par la Marseillaise des travailleurs.
Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Louis Bordier et Dominique Duranton, co-présidents et membres de l'association La Courtine 1917. Rendez-vous nous est donné à la mairie de La Courtine. Face à nos regards interrogatifs, Jean-Louis et Dominique s'emploient de suite à nous expliquer comment des soldats russes, comment plus de 10 000 soldats russes, se sont retrouvés dans cette petite commune de la Creuse en plein cœur de la Première Guerre mondiale.
Ah, c'est une longue histoire qui peut commencer en 1915 à peu près, quand l'état-major français s'aperçoit qu'il va être à court d'hommes pour continuer la guerre.
Notre allié russe, avec ses 17 millions d'hommes mobilisables, incarne les espoirs de la France. Un étrange marché est conclu entre l'état français et le tsar Nicolas II. En échange de fusils, la Russie envoie combattre aux côtés des Français les plus valeureux de ses hommes.
C'était le rouleau compresseur russe qui, bien sûr, allait nous faire gagner toutes les batailles. Le tsar, Nicolas II, voulait vraiment envoyer des soldats d'élite pour son image de marque uniquement. Hein. C'est de la com, comme on dirait aujourd'hui. Alors des hommes grands, beaux, belles moustaches, yeux bleus, tout ce que vous voulez. Et effectivement, quand ils arrivent à Marseille, ils font grande impression auprès de la population. Ils sont reçus avec fanfare, fleurs, d'un enthousiasme. Et effectivement, ils avaient belle allure, ces soldats. Et puis... Fini les parades, fini les flonflons, on les envoie au combat.
Les 20 000 soldats se retrouvent sur le front français dans les batailles les plus dures, les plus meurtrières. Tandis qu'ils voient leurs compatriotes mourir dans les tranchées pour une guerre qui n'est pas la leur, les soldats russes apprennent que dans leur pays, une révolution est en marche. Nous sommes en février 1917. Cette révolution, c'est la révolution russe. Le tsar abdique, des gouvernements provisoires se succèdent, c'est une période d'allégresse populaire, d'émancipation et d'émulation révolutionnaire. Ouvriers, paysans, soldats gagnent en liberté. Ils forment des soviets, ou conseils, dans lesquels ils pensent eux-mêmes la manière dont ils souhaitent s'organiser. Et en France aussi, les soldats russes commencent à se réunir en soviets pour décider des affaires de la guerre. Ils manifestent haut et fort. Ils ne veulent plus de cette guerre mal faite et trop meurtrière. Ils veulent rentrer chez eux, participer à la révolution qui est en cours. Les officiers russes sont désemparés. Leurs troupes leur échappent. et l'état-major français aussi s'inquiète de cette révolte. Très mauvaise pour le moral des troupes déjà au plus bas. Il ne faudrait pas que le vent de révolte russe se propage dans les tranchées.
Alors, on va tout simplement essayer de les éloigner du front, les envoyer le plus loin possible du front, et on se dit, mais la courtine, ça serait peut-être pas mal, hein, c'est à plus de 600 km ou 700 km, il n'y a pas de ville importante tout autour où ils pourraient contaminer les populations, banco pour la courtine.
Mais pourquoi le choix de la courtine, si ce n'est cet isolement rassurant ? Depuis 1901, s'étend sur le territoire de la courtine un camp militaire qui sert de base arrière des armées. En quelques années, le camp est devenu un grand centre d'instruction et de préparation pour le front. C'est dans ce camp militaire, au cœur du plateau de Mille Vaches, qu'arrivent en juin 1917 les 10 000 soldats russes révoltés de la 1ère brigade. Ils seront bientôt rejoints par les 6500 soldats russes de la 3e brigade, qui ont des positions plus modérées quant à la révolution, ce qui occasionne quelques débats houleux. Les Courtinois regardent tous ces nouveaux arrivants d'un œil circonspect.
Il avait couru des bruits qu'ils venaient du camp de Mailly et qu'ils avaient saccagé là-bas, qu'ils avaient fait du bruit. Alors la plupart des commerçants ont décidé de fermer. Et les gendarmes ont passé même, ils nous ont dit d'enlever les rideaux aux fenêtres, qu'ils ne rentreraient pas s'il y avait des bagarres ou quelque chose. Ma mère avait une jeune servante là, de la campagne là, qui était très courageuse. Elle a dit, fais comme tu voudras, moi je veux rester ouvert, parce que si tout le monde ferme, ils se mettront plutôt en colère s'ils voient que tout le monde est fermé. Alors elle a dit, moi je reste avec vous. Elle est restée, et en effet, le premier jour qu'ils sont sortis, le soir, l'après-midi, là, on devait couvrir à 5 heures. Alors l'après-midi, là, toute l'après-midi, on les voyait se promener, il y en avait des troupes, là. Alors ils ont vu le restaurant, là, il y en avait la pleine cour, c'était un peu plus loin, là. Alors on a dit, on va bien voir comment que ça va faire. Quand ma mère a dit, on va bien voir comment que ça va faire quand on va ouvrir. Enfin, ils sont rentrés, ils ont commandé à boire, ils ont bu, on les faisait payer en servant, comme on faisait avec les militaires. Il n'y a pas eu d'histoire. Après, au moment de partir, elle a dit, c'est là maintenant, comment que ça va faire? Et comme on parlait, ils ne parlaient pas le français, la plupart, alors elle leur faisait signe, finir leur verre, et puis que c'était l'heure de fermer la maison. D'accord, ils ont dit, ils ont tous fermé, bu leur verre, et puis ils sont partis.
Et puis il n'y a eu aucun problème.
Il n'y a eu aucun problème, et ça a duré 3 ou 4 jours, mais après toutes les enseignes sont revenues. Et après, ils avaient assez de café à la courtine pour se distraire.
On a également des preuves d'échanges sympathiques entre la population et les soldats russes en question. On a des photos les montrant en train de participer aux travaux des champs, à faire les foins, parce que beaucoup d'entre eux étaient issus du milieu rural, étaient paysans. Ils ont organisé des pièces de théâtre, ils ont organisé des concerts, ils ont organisé des soirées poésie auxquelles la population venait participer. D'ailleurs, j'ai un rapport du commissaire enquêteur où il dit, le commissaire, hier ils ont fait de la musique, ils ont fait une pièce de théâtre auquel la population de la courtine a eu la faiblesse de venir.
Entre ces échanges agricoles, économiques, culturels et festifs avec les habitants de la courtine, les soldats russes poursuivent leur réunion, ou soviets, dans le camp. Leur position est ferme et définitive.
L'enjeu des mutins et des plus durs, c'est le fait de garder leurs armes. Et c'est vraiment pour eux le grand enjeu entre eux et les états-majors français et russes, c'est garder leurs armes parce qu'ils ont vraiment l'impression que tant qu'ils gardent leurs armes, ben, ils sont les plus forts. Et donc tout va se jouer, il va y avoir plusieurs ultimatums pour leur demander de rendre leurs armes, et eux, c'est non, on garde nos armes et on veut rentrer en Russie.
Au fil de l'été, l'état-major français et les officiers russes affament de plus en plus les soldats dans l'espoir de les faire céder.
Ils mouraient de faim, oui, parce qu'on leur avait coupé les vivres.
ils tuaient leurs chevaux, ils mangeaient de tout ce qu'ils pouvaient. Ils passaient dans les fermes, ils vendaient leurs affaires pour faire un temps, quoi.
Est-ce que la population leur venait en aide?
Oh, un petit peu quand même, un petit peu.
Mais même morts de faim, les soldats ne cèdent rien. Ils conservent leurs armes et n'ont qu'un souhait, rentrer en Russie. Nous sommes le 16 septembre 1917. Le son des cloches, il est 10h du matin, le soleil inonde la campagne. Dans le village de la Courtine, les rues et les habitations sont désertes. Quelques jours auparavant, les habitants ont été évacués.
C'était, je me rappelle pas, ça devait être le 2 ou le 3 septembre. Et ils étaient au courant de ce qui se passait, bien entendu, mieux que nous. Ils m'ont dit, madame, avec votre enfant, il ne faut pas rester là, il faut vous en aller. Et nous avions une douzaine de bêtes à ce moment. J'avais mon père, c'est une affaire entendue, puis une vieille employée. Alors le soir, ils nous ont fait partir à 9h. On m'a donné 2 soldats français pour accompagner mon troupeau, pour monter au Malartiche. La bonne vieille que j'avais, elle portait le bambino. Mon père, il portait le pécule, et moi, je surveillais tout ça. J'étais pas d'un côté, j'étais de l'autre. Alors, on a échoué au Malartiche. On a eu soin de nous, on a eu chez des parents. On a logé nos bêtes comme on a pu. Le lendemain, on a laissé des cochons, on est revenu les chercher. Et nous avons resté là-haut 12 jours. Et je vous dis, au bout de 8 jours, nous sommes venus, il n'y avait pas de dégâts. Mais alors, au bout de 2 jours, il y avait le tour dans la serrure, et puis, Vous avez passé partout. Mais alors, monsieur, j'ignore si c'est le méfait des Russes ou le méfait des...
Des Français.
Des Français ou alors des gens qui profitaient que les autres étaient partis. Ça, j'en sais absolument rien.
Refusant les ultimatums, 10 000 soldats russes sont encore dans le camp, prêts à se défendre jusqu'au bout pour regagner leur pays. Autour du camp, un premier cercle d'artilleurs russes, munis de canons français de 75 mm, judicieusement placés. Plus loin, un second cercle constitué de soldats français prêts à intervenir si besoin. Des chants révolutionnaires éclatent dans les rangs des mutins. Les canons, les mortiers et les mitrailleuses font feu. Les Français sont partout autour des mutins. Aubusson, Crau, Gensioux, Feigné, Saint-Rémy, Sornac, Ussel, Frangier, Moutier-Roseille, Feltin, Blessac, Saint-Amand, Saint-Ouradou-de-Chirouze, Magnat-l'Étrange, Blessat, Malraix, Le Mas d'Artige, Cléraveau, Le Truc, Poussange, Croze, La Croix des Corons. Fusillades et canonnades durent 3 jours et 3 nuits. Le 19 septembre, les derniers mutins se rendent. Parmi eux, le soldat Globa, grand, beau, qui avait su se faire apprécier des Courtinois. Globa est un des leaders de cette révolte. L'histoire raconte qu'à son bras, se tient une jeune habitante de la Courtine. Elle est venue vivre au camp avec lui et est déterminée à le suivre, quoi qu'il lui arrive. C'est l'histoire d'amour à laquelle Jean Anglade donnera vie dans son roman « Il n'y a pas de bon Dieu » en 1993. Aucun rapport détaillé n'existe sur ces 3 jours de répression. L'armée française souhaite le silence le plus absolu pour ne pas déstabiliser plus encore des troupes déjà vacillantes. Combien de morts durant ces 3 jours ? Certains parlent de centaines, d'autres de milliers. Les chiffres officiels publiés par l'armée affichent 9 tués et 49 blessés. Et que sont devenus les soldats qui se sont finalement rendus ? Jean-Louis nous explique que certains ont été envoyés dans les geôles du Fort Liédo, sur l'île d'Aix, tandis que d'autres se sont vus offrir le choix entre poursuivre les combats sur le front, travailler comme volontaires à la construction des routes et chemins de fer français, ou partir en Algérie, le plus souvent au bagne, parfois dans des exploitations agricoles.
Et ça, jusqu'en dans l'année 1919-1920, où ils ont tous pu enfin regagner leur pays. Sauf à peu près 400 d'entre eux qui ont fait le choix de rester en France, qui se sont établis en France.
C'est cette histoire que, sans relâche, depuis 2014, Jean-Louis, Dominique et tous les membres de l'association La Courtine 1917 ressortent de l'oubli, documentent et transmettent.
Nous, on est là justement pour réveiller les mémoires.
Parmi les 200 adhérents de l'association, on compte des chercheurs et des historiens qui poursuivent et accompagnent la mise à jour d'éléments permettant d'éclairer ce qui s'est vraiment passé lors de cet été 1917 si spécial à La Courtine.
Il y a tout un travail de mémoire, mais il y a, j'en suis sûre, pour l'association, un travail de transmission et d'éducation. Alors, je pense que ça, c'est vraiment le deuxième grand volet de notre association, c'est de ne pas garder pour nous les découvertes, mais de les diffuser au maximum.
Aussi bien pour connaître que pour transmettre, l'association La Courtine 1917 est hyperactive. Organisation de colloques, actions dans les écoles, édition d'ouvrages, publication des cahiers de La Courtine qui, deux fois par an, en une cinquantaine de pages, font état des dernières découvertes réalisées et rendent compte de lectures d'ouvrages parus en lien avec cette histoire des soldats russes venus en France. Un des plus beaux projets réalisés par l'association ? Sans conteste, le centenaire, en 2017. L'association a tenu à l'organiser à La Courtine en accord avec la commune. 3 jours de colloques, spectacles, visites et fêtes. De quoi ravir et sensibiliser petits et grands à cette histoire. Car si les témoins directs de cette période ont peu à peu disparu, les enfants et petits-enfants n'y sont pas insensibles. Le maire de La Courtine, Jean-Marc Michelon, garde un très beau souvenir de cette fête du centenaire et de l'intérêt qu'elle avait remporté.
On l'a vu lors du centenaire, il y a beaucoup de Courtinois qui sont venus, qui sont intéressés de très près à cette histoire. Et en particulier les jeunes, bon, mais c'était une manifestation qui avait été très bien organisée, qui touchait toutes les tranches d'âge, soit par le biais de diffusion de films, soit du théâtre, soit des activités avec les enfants. Et donc là, vraiment, la population du secteur, mais je ne parle pas que de La Courtine, a vraiment participé et on a vu tout l'intérêt qu'ils aient porté à ce moment-là.
Le maire soutient énergiquement le travail réalisé par l'association La Courtine 1917.
Aujourd'hui, c'est bien que cette révolte des Russes sur le site de La Courtine soit mise au grand jour et expliquée pour les générations à venir. Donc ça fait partie de l'aspect culturel, historique de notre paysage, de notre territoire.
L'association La Courtine 1917 a encore plein de projets pour continuer à faire connaître cette histoire. La traduction en français d'un livre écrit par l'un des soldats russes venus en France. La création d'une pièce de théâtre qui racontera cette histoire avec des personnages pour l'incarner. Et un travail en cours avec la commune et la communauté de communes Haute-Corrèze pour concevoir un chemin de mémoire qui donnera corps et vie sur le territoire de La Courtine à cette histoire singulière de 1917. Un moment où la petite histoire des Courtinois a rencontré la grande histoire, celle de la Première Guerre mondiale, de la Révolution russe, du doute face à l'absurdité de la guerre et de la résistance pour continuer à rester droit debout. Pour vous plonger dans cette histoire et en savoir plus, c'est au choix. Si vous avez l'âme d'un romantique, vous pouvez vous immerger dans des romans comme ceux de Jean Anglade avec « Il n'y a pas de bon Dieu », de Corinne Valade avec « Léopoldine », ou de Maurice Gourion avec son tout récent polar « Tu entreras dans le silence ». Et puis si vous avez l'âme plus scientifique, en quête de vérité, il vous faudra aller voir du côté de Rémi Adam.
Un grand historien de la Première Guerre mondiale et spécialiste du corps expéditionnaire russe en France, Rémi Adam, qui vient de publier « Les révoltés de La Courtine, histoire du corps expéditionnaire russe en France, 1916-1920 ». Un ouvrage, je pense, vraiment très, très important et fondamental pour faire un peu le point, peut-être, en 2020, eh bien, de ce qu'on sait sur ces révoltés de La Courtine.
Rémi Adam est d'ailleurs sur le territoire le mardi 18 août prochain à 18h à la médiathèque du Sel pour parler de ce nouveau livre et le dédicacer. L'occasion de découvrir aussi l'exposition sur le corps expéditionnaire russe en France qui est présentée en ce moment à la médiathèque. Bon allez, comme d'habitude, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, nous vous mettons en ligne avec Rodolphe toutes les infos et liens utiles à côté de cette chronique à réécouter en streaming sur les sites internet de Radio Vassivière et de Haute-Corrèze Communauté. Et après cette phrase forcément qui sent la fin, Rodolphe va me demander...
Quelle musique as-tu choisi, Marion, pour conclure cette chronique qui parle de guerre, d'insoumission, de révolte et de soldats?
Et qui parle aussi de solidarité avec des frères d'armes. Dire Straits l'a chanté. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valley.
fences and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Fools too.